dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Grégoire Di Fiore. Prise de son assurée ce soir par Élise Le, réalisation Vincent Deck. Autour de moi, ce soir, Fabienne Pascaud, Philippe Chevier, Jean-Christophe Brianchon, à qui je souhaite, ainsi qu'à toutes les auditrices et tous les auditeurs, de cette première dispute de l'an 2018, une très belle année. À notre sommaire, les fourberies de Scapin, de Molière, dans une mise en scène de Denis Podalydès, c'est à la Comédie Française. Adieu Ferdinand de et avec Philippe Cobert, à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet, puis en tournée. Et un livre, une pièce de théâtre, Nos débuts dans la vie, de Patrick Modiano, publié chez Gallimard. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Le Vert, un Moyen-Âge inventif, à découvrir jusqu'au 8 janvier seulement au musée de Cluny à Paris. Nous ouvrons cette émission en nous rendant dans la salle Richelieu de la Comédie Française pour y découvrir une nouvelle production des Fourberies de Scapin, avant-dernière pièce de Molière. Cela faisait 20 ans que la Comédie Française n'avait pas proposé de nouvelle production d'une des plus célèbres pièces de sa figure tutélaire. Créée alors que la Comédie Française est en travaux déjà, la pièce se trouvait à l'époque libérée des contraintes habituelles de la comédie-ballet. Donc le dramaturge a pu se laisser aller à ce qu'il disait être une écriture de théâtre pur, sous inspiration de la Commedia dell'arte grâce à Scapin et à sa grande inventivité. Deux fils sous la coupe de deux pères autoritaires vont chacun voir leurs amours s'épanouir.
Le voilà qui rumine.
Avoir si peu de conduite et de considération, ça les jeter dans un engagement comme celui-là. Jeunesse impertinente.
Monsieur, votre serviteur.
Bonjour, Scapin.
Vous rêvez à l'affaire de votre fils.
Et je t'avoue que cela me donne un furieux chagrin.
Monsieur. La vie est mêlée de traverses. Il est bon de s'y tenir sans cesse préparé. Et j'ai ouï dire il y a longtemps une parole d'un ancien que j'ai toujours retenue.
Quoi ?
Ah. Que pour peu qu'un père de famille ait été absent de chez lui, il doit promener son esprit sur tous les fâcheux accidents que son retour peut rencontrer. Se figurer sa maison brûlée, son argent dérobé, sa femme morte, son fils estropié, sa fille subornée, et ce qu'il trouve qui ne lui est point arrivé, l'imputer à bonne fortune. Pour moi, j'ai pratiqué toujours cette leçon dans ma petite philosophie, et je ne suis jamais revenu au logis que je ne me sois tenu prêt à la colère de mes maîtres, aux coups de pied au cul, aux réprimandes, aux injures, aux bastonnades, aux étrivières. Et ce qui a manqué à m'arriver, j'en ai rendu grâce à mon bon destin.
Voilà qui est bien. Mais ce mariage impertinent qui trouble celui que nous voulons faire est une chose que je ne puis souffrir. Et je viens de consulter des avocats pour le faire casser.
Ah.
Fourberie de Scapin, la Comédie Française, c'est Philippe Chevillier qui commence.
J'allais à la Comédie Française en traînant un petit peu les pieds parce que je ne suis pas fan de cette pièce, les Fourberies de Scapin.
Ça commence bien.
Curieusement. Non, mais ça commence bien, mais ça commence bien, ça va finir bien aussi, vous allez voir. Et en fait, j'ai été très agréablement surpris. Moi, j'ai trouvé que dans les représentations que j'avais vues de cette pièce, c'est une de celles qui était la plus équilibrée entre la farce et la comédie noire ou grinçante, la comédie sombre, disons. Et il y a un rythme très enlevé, presque chauvage dans cette cette mise en scène de Podalydès. Mécanique folle qui se met un petit peu en route et qui fait que par moments, on comprend bien ce qu'il peut y avoir d'absurde dans cette volonté de Scapin de faire des fourberies sans cesse, de faire des arnaques dans tous les sens. Il y a cette, on est un peu galvanisé par ce rythme. Il y a j'ai trouvé, parce que la réaction du public a été, pas seulement sort de la première, était assez enthousiaste, et j'ai trouvé qu'il y avait une grâce dans ce spectacle. Alors ça repose aussi, à mon avis, sur deux éléments qui sont très importants. C'est la double révélation, d'une part de Benjamin Laverne, qu'on avait vu dans des rôles intéressants, puisqu'on l'avait vu notamment dans le cabaret Interlope, Travesti, où il campait un personnage de travesti qui était vraiment très impressionnant, mais jamais dans un rôle de cette ampleur, et que moi j'ai trouvé, comme d'autres d'ailleurs, extrêmement intéressant dans le rôle de Scapin, avec un abattage, un côté lumineux et sombre à la fois. Donc il y a eu le personnage de Benjamin Laverne, une sorte de révélation. Alors c'est toujours bien aux Français, quand on est un comédien, tout d'un coup, qu'on se dit, on voit là un autre qui explose, et ça fait du bien. Et puis, c'est l'autre révélation, si on peut dire, c'est Didier Sandre dans un rôle comique. On l'a pas vu souvent dans des rôles comiques. Donc, il joue ce rôle. C'est lui, le père, qui va dire qu'est-il est allé faire dans cette galère plusieurs fois, et qui se retrouve martyrisé par Scapin, et qui vraiment, moi, m'a fait hurler de rire pendant le spectacle. Donc, moyennant quoi, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai air d'Italie qui soufflait sur la comédie française, de comédie italienne, de comédia dell'arte, avec ce qu'il faut de noirceur. Et donc, moi, j'ai été content de ce spectacle, alors que j'y allais entrer dans les pieds. Et je me suis dit, finalement, la comédie française, à chaque fois, à chaque ouverture de saison, depuis quelques années, ça commence bien.
Méthode Pasco, y aller en traînant les pieds pour finalement aimer. Fabienne, est-ce que ça a été votre cas?
Mais sauf que moi, j'ai continué à les traîner à la sortie.
Vous y alliez à reculons aussi?
Moi, j'aime beaucoup cette pièce.
C'est l'inverse, c'est le problème.
Que j'avais redécouverte, il faut le dire, avec la mise en scène de Jean-Pierre Vincent en 1990 à Nanterre, où Daniel Auteuil composait un merveilleux Scapin, revenu de tout, suicidaire, crépusculaire, un vieil escroc qui annonçait un petit peu Figaro, qui parlait de revanche sociale, qui avait été aux galères, qui avait été emprisonné, dont on sentait qu'il trouvait la société de l'ancien régime totalement injuste. Et donc là, il donnait tout à coup cette mise en scène crépusculaire un peu funèbre, donnait à la comédie de Molière une résonance politique et pré-révolutionnaire presque forte. Et là, même si c'est admirablement joué, notamment c'est vrai que Benjamin Laverne est virtuose, il est rapide, il est brillant, il a tout pour lui, il joue avec son corps, son esprit, son verbe, enfin il est vraiment magnifique, et c'est vraiment une révélation, comme le disait Philippe Chevillet. Mais je trouve que la mise en scène accumule les morceaux de farce, les morceaux de bravoure, et qu'on perd totalement la dimension un peu plus politique, un peu plus crépusculaire, comme je le disais, de cette pièce finalement testamentaire, hein, puisque c'est l'avant-dernière comédie de Molière, écrite en 1671. Il mourra en 1673. Ça a été un bide à l'époque. Un bide parce que pourquoi ? Est-ce que les gens voyaient dans Scapin, justement, ce que n'a pas montré ici Denis Podalydès ? Est-ce qu'ils y voyaient quelqu'un qui leur reprochait tout ce qu'ils étaient ? En tout cas, la pièce n'a pas marché. Elle a marché plus tard. Mais là, alors évidemment, le public, mais de toute façon, le public de la comédie française, c'est un public invraisemblable. Il est toujours en transe.
Il aime tout.
Il applaudit, il se lève, il fait 20 appels.
Christiane Jataï ou Denis Podalydès, même
voilà,
combat.
Même combat. Et La Tempête aussi, qui se donne actuellement, fait aussi un triomphe. Mais je trouve qu'il manque une dimension. Alors, il y a bien des petites audaces comme ça. À un moment, Scapin sort nu d'une espèce de cahute comme Diogène. Mais il n'y a rien de philosophique pourtant chez lui. Et je trouve ça finalement un peu plat. Je trouve, alors, la dimension obscure, elle est donnée par les décors d'Éric Ruff, qui sont particulièrement ratés, je trouve, là, pour le coup. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Éric Ruff, mais j'ai trouvé sa scénographie d'échafaudage...
C'est un peu Key West, hein.
Voilà, Key West. En plus, les comédiens, enfin, quand moi j'y suis allée, ils n'avaient pas encore pris la mesure des exercices de gymnastique, donc ils s'emmêlaient les pinceaux dans les échafaudages. Et tout ça devant des toiles peintes un peu noires et sombres, j'ai pas bien compris ce que ça voulait dire.
Bon, voilà pour Fabienne Pasco, mais on creusera peut-être davantage votre vision de ce spectacle, Les Fourberies de Scapin, la comédie française, Jean-Christophe Briançon.
Je suis pas exactement d'accord avec Fabienne Pascot, puisque je me méfie.
Ça peut être dangereux.
Tomber sur la tête.
mais non.
Quelques coups de bâton peut-être.
Mais en l'occurrence, j'ai trouvé que cette scénographie. Inversement, moi, je goûte pas particulièrement les scénographies d'Éric Ruff, que je trouve bien souvent un petit peu lourdingue. Là, c'est lourd également, mais au moins j'y ai trouvé.
Mais pas dingue.
Pas dingue.
Lourd, pas dingue.
La différence est là.
Ben oui.
Parce que j'ai trouvé que ça permettait d'entrer en résonance, alors de manière un petit peu simple, et voilà, ça va pas chercher bien loin non plus, mais ça rentre quand même plutôt bien en résonance avec la complexité des fourberies de Scapin, justement, des fourberies du personnage, quoi. Je trouve que ça permet de bien pouvoir imager l'esprit tordu de cet homme. Donc voilà, en l'espèce, j'ai trouvé que la scénographie était pas forcément idiote, même si peut-être un petit peu trop centrée pour les gens qui sont voilà, à cour et à jardin. C'est un petit peu compliqué, ce qui était mon cas. Donc on voit pas toujours très très bien, mais pour autant intéressante. Après, moi, de la même manière que Philippe, j'y suis allé entrer dans les pieds, mais de la même manière que Fabienne aussi, sauf que comme Philippe, j'en suis sorti plutôt heureux, parce que c'est vraiment un genre qui ne m'intéresse pas, un texte qui ne me fait pas rêver, et en plus un endroit dans Paris, un théâtre où je sais rarement trouver mon esthétique, en tout cas. Et là, j'ai fini par y trouver un vrai plaisir de spectateur, ce qui m'arrive assez rarement dans ce genre de pièces et d'endroits. Là, effectivement, Benjamin Laverne est assez éblouissant, même si ça parfois se résume au cabotinage et que certains de ces numéros peuvent faire de la pièce et de la manière dont elle est construite quelque chose d'assez performatif, puisqu'on sent bien qu'elle est construite à travers quelques axes, quelques instants qui seront importants et qui amèneront le public à aimer. Comme par exemple cet instant où Scapin extorque 500 écus à Géronte, qui est une scène qui en elle-même est déjà célèbre, mais qui là en plus est traitée de telle manière pour que on voit tout à fait que la dramaturgie va tourner autour d'instants comme ceci. Et voilà, la pièce sera très rythmée, donc ça peut finir par faire un petit peu numéro de cirque, mais pour autant, c'est un vrai plaisir en tout cas de pouvoir voir les acteurs s'épanouir et faire preuve de leur brio voilà, à travers peut-être des trucs et astuces, mais qui fonctionnent en tout cas.
Personnellement, j'ai ni goût prononcé, ni goût prononcé pour les fourberies de Scapin, voilà, qui fait partie des pièces de notre répertoire sur lesquelles je me précipite pas forcément. J'ai beaucoup apprécié, moi, plutôt une moitié de spectacle ou une première partie de spectacle, et notamment le début, où j'ai trouvé intéressant que ça joue assez lentement, qu'on puisse vraiment prendre bien connaissance du texte. Enfin, il y avait quelque chose qui était à l'inverse de ce qui se passe dans la deuxième moitié, me semble-t-il, quelque chose qui permettait de vraiment d'accompagner sans hystérie et sans tour de force les personnages. Je trouvais que ça prenait son temps, cette sortie effectivement un peu diogénesque, mais juste pour l'image, hein, de cet homme à moitié nu qui sort d'une trappe comme ça, qui semble surgir du sous-sol, et puis qui après, voilà, aura un petit pagne, un petit morceau de tissu pour cacher sa totale nudité. Bon, c'est une jolie image, mais sans plus. Mais en tout cas, pendant tout ce début, même assez longtemps, notamment la première scène d'extorsion de fond, là c'est Gilles Davine qui joue le père concerné, j'ai vraiment trouvé le rythme assez appréciable. Bon, l'échafaudage, ça fait des entrées et des sorties de scène qui ne sont pas forcément très pratiques pour les interprètes, mais bon, pourquoi pas, comme s'il venait d'une autre dimension. Bon, on peut lire ça assez de bien des manières. J'avoue que je me suis ensuite un peu lassé au fur et à mesure de la représentation de ces morceaux de bravoure, Benjamin Laverne allant jusqu'à, je me demande son metteur en scène, évidemment, à demander au public de participer à ce moment. Bon, ça fait partie maintenant des choses que la Comédie Française, comme plein de théâtres, aime, évidemment, faire, que le public puisse à son tour crier, participer. Ça vous a plu, ça, Philippe Chevillier ?
Oui, ça m'a plu, parce que je tiens mon propos par rapport à ce que disait Fabienne, notamment tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'en ai... j'en ai parfois un peu assez des comédies qu'on veut absolument tirer vers la noirceur. Ça, c'est très bien, mais c'est très, bon, Scapin, il y a une noirceur évidente. Moi, j'avais trouvé très bien la mise en scène de Jean-Pierre Vincent, mais ça m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Là, je trouve que justement, il y a une méchanceté quand même et une cruauté, alors qu'il est moins dans la noirceur, mais plutôt dans la violence. Et la scène de la bastonnade où il saisit un petit enfant dans la salle, ça a une dimension. C'est un enfant qui frappe et moi, je trouve que cette cruauté-là donne cette
c'est à la très fois, violent quand même.
C'est très violent, mais justement, c'est pour ça que c'est pas innocent. C'est-à-dire la mise en scène, elle est pas seulement dans la farce. La farce, elle est vraiment très très serrée, très. Mais moi, dans la noirceur, je trouve qu'il y a une dimension à Commedia dell'arte qui est vraiment présente et qui nous entraîne vers quelque chose. Alors moi, j'ai vu plutôt la dimension sociale. Je la vois surtout dans les rapports entre les jeunes avec les vieux. C'est très cruel. Les jeunes avec les valets, tout ça existe. Et je trouve que moi, ça nous emmène plutôt vers Goldoni d'une certaine façon. Donc je voilà comment je l'ai ressenti. Et c'est pour ça que moi, les scènes, les morceaux de bravoure m'ont pas tellement gêné, parce que les morceaux de bravoure, justement, s'ils sont pas menés tambour battant, on s'ennuie vraiment beaucoup là.
Oui, mais moi, il me semble que c'est davantage du côté de l'ode au théâtre que Denis Podalydès a penché plutôt que vers la noirceur ou vers le social. C'est vrai que Scapin, c'est une sorte de mise en abîme, le jeu dans le jeu. Il met en scène évidemment des moments, et j'ai l'impression que c'était plutôt, ce qui est très bien aussi, et pour le coup, ça va bien dans cette maison, Jean-Christophe Brianchon, si c'est un endroit où on doit célébrer. Exactement. Le théâtre et faire du théâtre, la comédie française s'y prête bien.
C'est exactement, c'est le lieu où ça doit être fait, et fait de cette manière-là, je trouve que tout se tient, c'est normal, je pense que c'est un succès qui a lieu d'être. Après, moi je me pose aussi, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, la question de ces interventions du public, ou en tout cas des appels qui sont faits au public, pas seulement au moment où on demande au public effectivement de scander le nom de Géronte, mais c'est aussi, même dans la nudité de Benjamin Laverne, c'est pas seulement fait pour créer une image, c'est aussi fait pour interpeller un public qui, a priori,
qui va un peu frémir.
N'est pas forcément.
Bon, il a vu Denis Podalydès nu frontalement dans les damnés pendant des soirs et des soirs. Donc, c'était encore autre chose là. C'était
bon, je sais pas exactement. Alors après, ça participe aussi au fait que cette pièce soit purement, je pense, construite comme vous le disiez, une ode au théâtre, et comme un instant qui doit être conçu et pensé comme un pur instant de divertissement, quoi. Et donc ces moments-là le permettent, ou en tout cas nous permettent de nous en persuader, en tout cas, puisque c'est comme toujours, le cri des gens nous permet de croire qu'on participe à quelque chose de commun. Donc ça effectivement, ça participe à cette idée d'ode au théâtre. Après, est-ce que c'est heureux? Je ne suis pas tout à fait certain. Est-ce que ça permet de faire avancer la pièce et de la faire penser différemment? Je ne suis pas sûr.
Fabienne Pascoe?
Moi, il y a une dimension qui m'a quand même sauté aux yeux dans la pièce, c'est que c'est une pièce sans femme, véritablement. C'est une pièce... On dit que Molière était homosexuel à la fin de sa vie.
Ah, ça y est, vous êtes partie, Fabienne,
non,
là-dessus.
Mais non, mais c'est vrai qu'il n'y a de rapport qu'entre hommes. Les mères sont absentes, comme souvent chez Molière. Elles doivent mourir en couche, mais en tout cas, on ne les voit pas. C'est souvent des enfants opposés au père. Là, c'est deux garçons, deux vieillards. Scapin n'a pas d'épouse non plus.
Mais on achète les femmes, par contre.
Et on achète les femmes. Donc, il y a un côté comme ça que je sauverais, une petite dimension comme ça qui m'est apparue dans cette mise en scène, à laquelle je n'avais, il est vrai, pas pensé. Mais il y a quand même des problèmes d'acteurs. Comme Madeleine Dermy, elle est épouvantable.
Vous trouvez ?
Ah oui, je trouve que le fou rire, la dimension de fou rire, c'est ce qu'il y a de plus difficile au théâtre, les fou rires. Mais là, c'est vraiment...
C'est pas sa meilleure scène,
non,
peut-être.
Non, c'est pas sa meilleure scène.
Mais je trouve qu'elle a une prestance et qu'elle a une place au français, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'autres jeunes comédiennes qui aient ce tempérament-là. C'est vrai que le fou rire,
je vous l'accorde. Ah, le fou rire est vraiment
raté.
Mais
je trouve qu'elle a une présence qui s'affine.
Elle tente quelque chose avec la direction qui lui est donnée aussi. Je trouve, son entrée en scène, en l'occurrence, bon, moi je l'aurais pas vu comme ça, mais elle se débrouille, j'imagine, avec cette idée, avec cette direction, et elle l'embrasse quand même assez bien. Elle l'incarne, elle est là, elle est présente, et elle est assez bien présente.
Philippe Chevillier,
oui, moi, ça ne m'a pas choqué parce que elle a un tempérament, elle a une présence.
Elle en fait des kilos quand même.
Oui, hein. Oui, mais. Ah, mais
c'est ce qu'on lui demande.
Là, c'est ce qu'on lui demande.
Justement, oui, mais Benjamin Laverne en fait des kilos dans la légèreté.
Oui, mais c'est un personnage.
Pas toujours, toujours non plus, Fabienne.
Oh, moi, je trouve.
C'est un personnage qui est quand même plus intéressant. Comme vous disiez, les personnages. Alors, on aurait pu donner une dimension métaphysique à Zerbinette, mais franchement, dans le rôle de la danseuse égyptienne Zigane, on ne sait pas très bien. Elle en fait une forme de caricature, c'est vrai, qui par moment peut évidemment un peu choquer parce qu'elle est très poussée, comme vous dites. Mais moi, je trouve que avec le costume de la croix, avec tout ça, ça fait une espèce de ludion comme ça sur scène qui est assez convaincant. Moi, je l'aime bien, Hélène Hermie, mais voilà.
Voilà, costume de la croix, Christian, comme d'habitude, ouais. Pour les mises en scène de Denis Poledès et avec les scénographies d'Éric Ruff. En tout cas, cette production des Fourberies de Scapin, visiblement, elle affiche complet pour un certain temps. Pour l'instant, elle se donne jusqu'au 11 février à la Comédie Française Salle Richelieu. Pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de place, mais on imagine que c'est une production. Pardon ?
Non, je voulais juste te dire que je pense quand même que la réaction du public par rapport à La Tempête ou même à La Règle du jeu, c'était quand même, alors peut-être parce que c'est un classique de chez nous, mais il y avait vraiment un enthousiasme dans la salle que j'ai suivi parce que j'ai demandé à des gens qui en sont allés plus tard, et c'est vrai qu'il y a une forme de jubilation de la salle qu'il n'y a pas sur certains spectacles.
Le public est acquis. Parce que Molière, on connaît les répliques.
Oui, mais enfin, bon, même lui, bon, Lucrèce Borgia, j'en citais plein où la réaction du public n'était pas, alors peut-être parce qu'ils ont découvert Benjamin Laverne ou que Didier Sand, il y a quelques gimmicks qui ont fait que ça marchait, mais c'est pour ça que j'ai trouvé que l'ambiance vraiment était très chaude dans la salle par rapport à même à d'autres productions où ils sont juste chauds. Voilà.
Juste chaud. Là, ils sont bouillants pour les Fourberies de Scapin. Pour l'instant, jusqu'au 11 février, sauf si vous avez une information contraire. Jean-Christophe Briançon, on imagine que ce spectacle va être pris saison après saison. Et puis, il faut dire aussi que ce spectacle est bénéficié d'une captation enfin en direct dans les salles de cinéma, que ça va être à nouveau le cas. D'autres reprises en salles sont proposées jusqu'au 31 janvier dans plus de 400 salles de cinéma. Donc, vous pouvez vous renseigner. Vous trouverez ça sur le site franceculture.fr à la page de la dispute pour savoir où et quand dans un cinéma près de chez vous. Vous pourrez aussi découvrir cette mise en scène. À suivre dans la dispute, Philippe Cobert et Patrick Modiano.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée ce soir au spectacle vivant, nous rendons à la Télé-Théâtre Louis Jouvet où Philippe Cobert nous invite à venir dire adieu Ferdinand, pas un adieu à la scène bien sûr, mais un adieu à un personnage emblématique, un adieu en deux et même trois temps, puisque Courbert présente cette saison deux volets, enfin décomposés en trois histoires, de ce qui sera le triptyque des adieux. Il joue donc en alternance Clémence et le casino de Namur.
Ouh, comme c'est bon! Une baleine qui parle avec l'accent arabe. Ben oui, je sais pas pourquoi, chaque fois que je la vois, puis que je l'entends, je vois une baleine. Et puis même pire, je vois mon idique. Dédé! Ils sont tous à poil! Ça, c'était prévisible. Mais vous, c'est différent, Ferdinand. C'est différent, vous êtes à la télé. Pas du tout. Je ne suis jamais à la télé. Jamais. J'ai été une fois exceptionnellement parce que j'ai fait Molière. Ah, bah oui, mais une fois suffit. Papara, para, para, papara,
chrome, papara, chrome, papara, chrome. Voilà pour ce teaser, comme on dit maintenant au théâtre, c'est-à-dire un aguicheur de 54 secondes avec quelques extraits provenant de ces trois segments qui font deux soirées, en tout cas en ce moment, Clémence et le casino de Namur. Vous avez vu les deux, Fabienne Pascaud?
Oui, j'ai vu les deux et j'ai beaucoup aimé parce que quand on va retrouver Philippe Cobert, on a l'impression qu'on retrouve un petit peu quelqu'un de sa famille avec des personnages qui appartiennent à votre parentèle, Clémence, Ariane, les copains,
le frère.
Donc il y a toujours un vrai bonheur et je dois dire que Philippe Cobert, il vieillit doucement comme nous tous, mais il y a plus de tendresse dans ce qu'il fait et plus de générosité encore.
Alors, pas tendre avec Clémence quand même. Vous parlez de tendresse, dis
bah
donc.
Pourquoi pas, il est retourne quand
rude,
même, il la trompe un
ah,
peu.
C'est mais... rude. Hein.
Bah, oui, mais c'est l'époque, c'est 68. C'est
ce qu'il en fait aujourd'hui quand même. Hein.
Oh, moi, ça ne m'a pas troublé. Bon. C'est un couple qui se dit la vérité.
Vous qui aimez les gens misogynes, vous étiez servi, c'est ça?
Ben non, vous voyez, ça ne m'a pas troublé.
Ah bon,
parce que c'est
horrible.
Ben, c'est comme avec Ariane Mouchkine, il ne lui laisse rien passer, mais on sent une vénération pour Ariane Mouchkine quand il en parle. Mmh. Et Clémence, c'est quand même celle qui l'a aidé à accoucher de ses spectacles aussi, qui l'a regardé pendant toutes ses improvisations, qui l'a aidé à découper ses spectacles. Donc je pense qu'elle est sans doute contente qu'il en fasse ce personnage haut en couleur et haut en saveur qui met toujours son pouce devant sa bouche. Enfin bref, moi ce que j'ai beaucoup aimé, j'ai vu les deux spectacles. Alors il y en a un, Jean-Christophe n'est, je crois, pas tout à fait d'accord avec moi.
Encore ?
Il y en a un que j'ai préféré. Il y en a un que j'ai préféré, c'est Clémence, justement, parce que j'y ai ri à gorge déployée. Clémence, ça raconte comment d'abord il a une tentation d'adultère, il a envie de coucher.
Il a un besoin sexuel.
Voilà, il a un besoin sexuel très fort, oui. Pour une femme du soleil qui est arabe, énorme. Et énorme. Et donc, il explique à Clémence que, franchement, il a envie. Alors bon, on est dans les années 60. Avec l'amour libre, la tolérance, la compréhension de l'autre. Donc Clémence, elle râle un peu, mais enfin, elle le laisse y aller. Et puis elle souffre, et puis bon, bref. Et lui est assez déçu de sa tromperie. Et dans la seconde partie, pour se rabibocher avec Clémence, il décide de partir en vacances avec elle dans un club de naturistes.
Qui est un club que fréquente assidûment Ariane.
Non, il paraît que c'est faux, ça. Mais c'est ce qu'il dit dans le spectacle. Et donc, c'est d'une drôlerie, la découverte de la nudité des autres, sa propre timidité. Et ça, je dois dire que c'est, en plus qu'Aubert n'est fait dans la crudité, dans la paillardise, il n'est pas toujours de très bon goût, mais c'est vraiment jubilatoire. Et sa capacité à incarner des dizaines de personnages, en tout cas, est une vraie jubilation pour le spectateur. Et en même temps, l'exercice de Cobert, il n'est jamais franchement narcissique, ce qu'il pourrait être, parce que ça fait quand même plus de 60 heures de spectacle qu'il consacre à son aventure depuis le soleil, parce qu'il raconte la France en même temps. Il raconte la France des Trente Glorieuses, comment tout ça bascule, comment ça bascule dans les rapports de couple, dans les rapports d'amitié, dans la politique. Enfin, on sent un pays qui bouge. Et donc, ça donne toujours un contexte à ces spectacles qui empêche le narcissisme gratuit, mais qui, au contraire, montre la générosité du regard de l'acteur sur son monde.
Alors, pour rappel, il faut dire que ça fait maintenant 37 ans que Philippe Cobert a entrepris de raconter ses années de jeunesse, en fait, parce qu'il n'a pas dépassé 1980, enfin la fin des années 70, au moment où il quitte le Théâtre du Soleil, il a raconté son enfance à Marseille, sa mère, son adolescence, ses débuts dans le théâtre, et puis effectivement son arrivée au Théâtre du Soleil en 71, me semble-t-il, et donc jusqu'à son départ, et puis au début des années 80, quand ça va très très mal, il fait ses heures et ses heures et ses heures, plusieurs mois, hein, comme ça, durant d'improvisation. Tout est enregistré, filmé, et depuis, il ne cesse de déplier certains épisodes, de les allonger, de les réécrire aussi, parce qu'il y a vraiment une part d'écriture très importante chez Philippe Cobert. Voilà, pour resituer quand même un tout petit peu les choses, pour celles et ceux qui ne seraient pas encore familiers de cette aventure-là, qui dure depuis 36 ans, qui est bien plus vieux donc que Jean-Christophe Brianchon.
C'est ça le problème.
C'est quoi votre problème avec Philippe Cobert? Vous aviez déjà vu?
Oui, j'avais déjà vu La Danse du Diable et Mai 68.
La Danse du Diable, qui était le Bac 68, La Danse du Diable, c'était le premier spectacle qu'il a repris. J'en parlerai tout à l'heure parce qu'un DVD vient de sortir. Jean-Christophe.
Mais alors, avec Philippe Cobert en tant que tel, je n'ai aucun problème parce qu'il est... Enfin, il y a pas d'adjectif possible, quoi. C'est bluffant, en tout cas, de le voir agir sur scène avec cette légèreté, cette nonchalance, à la fois cette certitude de tout ce qu'il fait et en même temps, justement, le manque d'importance qu'il attache à chacun de ses gestes. On a l'impression qu'il nous imite tout, il prend le parti de l'imitation de tout, même des robinets. Mais même quand il fait un robinet, il a beau s'en foutre parce qu'il fait ça qu'à moitié, mais en même temps, il le fait très bien quand même. Donc, c'est honnêtement, c'est bluffant, cette nonchalance, cette facilité, c'en est quasiment dégoûtant pour les autres. Quoi,
mais c'est beaucoup de travail, vous savez.
C'est très très fort, mais c'est manifestement 50 ans de travail, c'est incroyable, réellement. Après, moi j'ai d'une part pas mal de mal avec justement avec sa grossièreté linguistique et parfois physique. enfin physique en tout cas, dans le sens où il peut être assez grimacier. Bon, c'est quelque chose, moi c'est très personnel, mais ça ne me, voilà, je passe complètement à côté de cet humour-là. Et au-delà de ça, c'est un spectacle qui se veut, en tout cas de la façon dont il en parle, c'est une démarche qui se veut proustienne sur le papier. En tout cas, c'est cette tentative de recherche ou de captation d'un état perdu, d'une jeunesse perdue, ou en tout cas d'un pays qui, comme vous dites, bouge, mais enfin a bougé plutôt, puisque voilà, c'est, il va pas au-delà des années 80. Donc il y a une tentative de rattrapage de quelque chose nostalgique, mais qui me semble manquer un petit peu de profondeur, quoi. Enfin, par rapport, enfin, si on décide de dire que c'est une démarche proustienne, quoi. Après, si on acceptait tout simplement que c'est juste un très bon one man show, pourquoi pas.
Mais Molière du seul en scène, après tout, l'an dernier.
Il pourrait être un beau scapin. Hein. Il serait un merveilleux scapin.
Ah oui, bah ça. Oui.
Là, je trouve que c'est peut-être un petit peu galvaudé, mais bon. En tout cas, il est incroyable et si je dois avoir une préférence, moi, ce sera plutôt pour le Casino de Namur.
Alors, qui raconte quoi ? Enfin, là, c'est la première partie parce c'est pas fini. Hein. Il y en aura en fait encore un normalement l'an prochain parce que le Casino de Namur, on le voit pas pour l'instant dans le Casino de Namur. On reste chez les parents du copain.
Chez les parents d'un ami. Donc, c'est dans un premier temps le trajet vers cet ami-là qui habite encore chez ses parents, puis ensuite le dîner chez les parents de cet ami. Et au détour de tout ça, il arrive quand même malgré tout, parce que l'écriture, non seulement en termes de rythme, mais aussi en termes de sensibilité, est assez étonnante. On parvient à passer par tous les états, et à travers cette, on va dire, c'est quasiment une anecdote, cette soirée, quoi. Cette soirée qui passe chez cet ami, il parvient quand même à brosser beaucoup de choses, beaucoup de sentiments, et il parvient à réellement d'écrire, je pense, assez justement la complexité, la complexité de la position de l'acteur dans la société, dans sa famille, de l'acteur vis-à-vis de lui-même, mais de l'acteur pas que, enfin, de l'artiste ou de toute personne qui aurait une velléité au-delà, on va dire, au-delà de la concrétude du quotidien, quoi. Et il le fait très très bien, il le fait effroyablement bien. Les parents de cet enfant sont eux aussi très beaux dans le rapport qu'ils ont à...
Il le martyrise quand même, ce pauvre garçon.
Il le martyrise, mais il le martyrise parce qu'ils ne comprennent pas. Ils lui disent à un moment, je ne sais plus quelle est la phrase exacte, mais il parle...
C'est lui qui fait tous les basses besognes, qui fait la cuisine, qui fait
tout.
Oui, mais
Cendrillon.
Il parle à un des amis de leur fils et ils lui disent, toi c'est pas pareil, tu passes à la télé, lui c'est un paysan. Et je trouve ça très beau. Enfin, c'est pas grand chose, mais c'est très vrai. C'est leur situation, c'est leur réel. Impossible de sortir de leur réel. Oh. Et c'est chouette. Enfin, Philippe Cobert nous le fait faire.
Philippe Chevillé sur Philippe Cobert.
Alors moi, j'étais un fan du Théâtre du Soleil. C'est un spectacle que j'ai vu au lycée. J'étais au lycée Paul Valéry. J'ai vu 1789. Mais j'ai suivi Ariane Mouchkine. J'ai beaucoup moins suivi Cobert. J'ai vu des spectacles de lui. Je suis moins passionné par ce qu'il fait, même si je considère que c'est évidemment assez extraordinaire. Là, j'ai vu moi que le Casino de Namur, ce qui est pas bien. Hein. J'ai vu qu'une partie.
Bah, on peut pas voir tout le temps.
On peut pas tout voir. Je suis moins enthousiaste que Jean-Christophe. J'ai trouvé que c'était une histoire un peu anecdotique. Au départ, je me disais même, bon, c'est vraiment un peu réchauffé, c'est-à-dire il repart de sa vie pour raconter des anecdotes qu'il n'avait pas mis dans ses premiers spectacles. Il aurait peut-être pas dû raconter celle-là, je sais pas. Et puis, alors, c'est vrai que à force dans cette famille qui est quand même pour moi, je le vois plutôt comme une fable qui commence comme une farce et puis qui finit comme une fable fantastique avec des personnages absolument épouvantables, parce que effectivement, les parents, moi, je les vois pas tellement en représentant. C'est une famille belge, donc de Bétravier. Alors au départ ça me gêne un peu parce qu'il y a une image un peu un peu les bronzés font du ski, quoi, qui offrent l'alcool et tout ça, qui est un peu galvaudé, frelaté, qui a un phrasé, c'est un peu la caricature d'une famille rurale. Et puis on sent que cette cruauté qu'il peut y avoir à l'égard de leur fils, puis la cruauté aussi, les rapports extrêmement ambigus et très bizarres entre les deux amis, Ferdinand et Bruno, qui jouent à fond le jeu de la famille par une espèce de perversité comme ça qui se met en place. petit à petit, je me suis quand même fait happer par l'histoire. Et il y a un moment d'ailleurs où ça devient vraiment fantastique quand il se retrouve seul dans la chambre avec le garçon, le comédien qui est martyrisé par ses parents, où l'autre devient un peu, on a l'impression que ça devient un personnage presque un gnome, quelque chose de terrifiant. Et à la fin, je me suis dit, moi qui allais finalement Cobert, c'est pas vraiment mon truc. Et ben, je me suis dit, mais quand même quelle force, parce que on a le clown gay et triste, on a tous les jeux possibles, et avec une histoire qui m'intéressait pas vraiment à la base, bah je me suis quand même fait avoir à la fin. Mais voilà, je considère pas que ça soit en tout cas une œuvre majeure en pendant que cette partie-là, mais j'ai pas vu les deux autres, donc voilà.
Mais c'est vrai qu'on peut se demander quand même au-delà du simple Casino Namur, c'est ces nouveaux spectacles ont la même nécessité que certains autres, mais de la même façon, en dernier, le Bac 68, qui racontait, alors vraiment un petit épisode, le Bac 68 de Philippe Cobert, avait été vraiment un régal total pour moi, et de même avec ces nouveaux spectacles. C'est vrai que l'argument est très très fin, vous avez très bien raconté l'un et l'autre. Alors peut-être le Casino Namur se développera encore davantage d'ailleurs, puisqu'il y aura une suite normalement l'année prochaine, mais même si les arguments sont minces, je me fais avoir, Clément, ça dure quand même 2h15, nous qui regardons beaucoup notre montre au théâtre, Fabienne Pascaud, ça passe très très vite, ça passe très bien.
C'est l'entreprise de Cobert, bon, parce qu'il y a eu plusieurs cycles, il y a le cycle de l'homme qui danse, et puis le roman d'un acteur, ensuite l'homme qui danse.
Mais ceux qui découvrent aujourd'hui en 2017-18 maintenant,
mais déjà
Philippe Cobert, est-ce qu'ils vont se rendre compte de ce que c'est? Est-ce que ça suffit?
C'est un acteur proté qui est capable de jouer l'homme, la femme. Les problèmes de genre ne se posent pas avec Philippe Cobert. C'est une sorte d'acteur monstre qui est aussi bien homme, femme, enfant,
animal.
Vieux, jeune, animal. Il est totalement transgenre, et son geste, ça n'existe pas, des acteurs qui racontaient leur vie comme ça dans une espèce de geste médiéval, un cycle. On parle d'autofiction en littérature, lui il a inventé l'autothéâtre, quoi. Et ça, c'est prodigieusement intéressant et passionnant, parce qu'il vieillit avec ses spectacles, il se donne. C'est à la fois une quête théâtral, plastique, intellectuel, quelqu'un qui se raconte sur toutes ces années, mais le projet est fou quand
mais
on
qui raconte
pense.
Seulement, mais qui raconte pas mais très longtemps de sa vie. Sa vie s'arrête à 30 ans d'une certaine façon.
Exactement, mais qui la raconte sous des milliers d'angles. Ouais. Donc c'est formidable.
Non,
ça
c'est
nous dit la
projet,
richesse.
Hein.
Le projet est exceptionnel. Et moi, je suis pas d'accord avec Jean-Christophe au niveau de la langue, parce que c'est sûr que c'est pas Proust, mais c'est Céline, c'est Rabelais, c'est Prévert. Il y a une verdeur, il y a un goût du mot, il y a un goût de la langue charnue, claudélienne parfois presque aussi, qui est époustouflante chez Cobert. C'est vraiment la langue devient matière.
Non, mais c'est pas la langue telle qu'écrite qui me. Enfin, quand je disais qu'il y avait évidemment un écart entre Proust et Cobert, bon, déjà, c'est pas lui faire insulte que de le dire. Je pense que c'est pas non plus très grave. Et en plus, c'est pas encore une fois dans la langue telle qu'elle est écrite. C'est plus dans le projet, dans la réalité de son projet. Quand il revendique un projet proustien, je trouve que voilà, on peut, c'est discutable. C'est discutable, entre autres, du fait, comme vous le disiez Arnaud, des choix qui sont faits, surtout sur ces derniers spectacles, des épisodes racontés. En quoi, effectivement, ces épisodes, plus que d'autres, méritent de l'être et représentent réellement un instant donné du temps de notre pays, ou du temps de cet homme-là, ou du temps de cet homme-là dans ce pays-là, etc. Pourquoi, exactement?
On pourrait convoquer Pérec, tentative d'épuisement d'une jeunesse, aussi.
Oui, mais quasiment. Alors, n'est-elle
est-ce
pas épuisée?
Est-ce qu'il va... non, puisqu'il y a des nouveaux épisodes. Enfin, visiblement, il dit qu'il arrive. Il a dit qu'il arrive presque au bout de ses improvisations des 80. On le croit pas.
Non.
On le croit pas parce qu'on a des heures et des heures. Philippe Chevillier.
Oui, en fait, je crois que oui. Ce qu'il explique en plus, c'est qu'il fera peut-être disparaître Ferdinand, mais ça lui interdit pas de faire
Ferdinand, que c'est son double.
Par exemple. Oui. Mais moi, je pense quand même que ça peut être difficile pour un public nouveau, parce que cette histoire que n'ont pas vécu les gens.
Ils savent pas qui est Ariane, du coup. Presque. Enfin, ils ont peut-être pas
c'est ça qui est fascinant. C'est un petit peu comme à la Comédie française, c'est que tout le monde sait. Enfin, là, tout le monde vient, enfin, le public est déjà acquis et tout le monde connaît l'histoire de Philippe Cobert. Et
il a toujours des nouveaux spectateurs.
Même sans la connaître, son histoire.
Bien sûr. Bon, après, ça rajoute quelque chose, évidemment. Il y a un petit quelque chose d'entre soi qui participe au bonheur qu'on peut y trouver, quand même.
Philippe Chevillier ?
Moi, j'étais heureux d'être reconquis, d'une certaine façon, par Cobert, par un spectacle, mais par un spectacle qui m'a semblé quand même... pas forcément très passionnant quand même. Donc je pense que peut-être que quand ça se réinscrira quand il y aura de la deuxième partie.
Il n'y a pas beaucoup d'acteurs comme ça à Paris.
Quand même. Non, en France.
Je distingue bien l'acteur du spectacle que j'ai vu, mais je pense qu'il reprendra peut-être avec un deuxième volet plus de force, Cagnot de Namur. Mais voilà, en attendant.
Christophe Briançon.
Il est peut-être le seul comédien, certainement. Mais ce que je voulais dire très rapidement aussi, c'est que moi j'ai trouvé que grâce à l'épure de la scénographie, puisque le plateau est vide avec simplement une chaise, il y a quand même quelque chose qui se crée, et en l'occurrence par les lumières que j'ai trouvé absolument remarquables.
Vous avez raison de le souligner.
Chariot, qui sont, je trouve, remarquables.
Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Cobert, il y a une façon aussi simple de se rattraper, c'est de se procurer le DVD de La Danse du Diable, qui a été filmé par Bernard Dartigues. C'était il y a un an maintenant, à l'Athénée, quand il a repris ce spectacle, Philippe Cobert, édité par Manabila. C'est le premier, celui qui a été créé en 80 à la Condition des Soies à Avignon. Donc là, on a l'historique. Et puis,
81,
absolument. Et puis ensuite, on peut aller voir Adieu Ferdinand jusqu'au 12 janvier à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet, puis en tournée. Il y aura aussi le Bac 68 qui sera repris au cours de cette tournée. Il jouera au Théâtre du Jeu de Paume en février à Aix-en-Provence, au Gémeaux à Sceaux, au Théâtre Municipal de Cahors. En mars, ce sera la salle Gérard-Philippe de Bonneuil-sur-Marne, la Maison de la Culture de Nevers, l'espace Michel-Simon, Noisy-le-Grand, le Théâtre de l'Archipel à Perpignan, le Théâtre Molière à Pézenas. Et en avril, le Théâtre du Gymnase à Marseille, le Théâtre Jean Villard de Suresnes et le Théâtre Liberté de Toulon.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute spectacle vivant, c'est un livre, une pièce de théâtre écrite par le prix Nobel de littérature Patrick Modiano. Son titre, Nos débuts dans la vie, une pièce publiée chez Gallimard.
Il me revient en mémoire, il me revient une histoire, il me revient des images, un village, mon village. Il me revient en mémoire, je sais pas, comme un songe, cette histoire. Et voilà qu'au loin s'avance mon enfance, c'était, je crois, un dimanche, c'était, je crois, en novembre, qu'importe, mais je revois l'usine, oui, l'usine, ça dessine, surgit du livre d'images.
Un peu de Barbara ne peut jamais faire de mal, surtout quand elle lui revient. Est-ce qu'on peut dire que Patrick Modiano, les souvenirs reviennent toujours et toujours pour les amateurs de ses romans. Mais enfin, il passe le cap, il franchit le pas, il écrit du théâtre. Jean-Christophe Briançon, pour commencer.
Les souvenirs reviennent, et en l'occurrence reviennent bien, parce que contrairement, je trouve, à son roman de la rentrée, qui n'était pas très réussi, ou en tout cas très caricatural par rapport à ce qu'il sait faire. Enfin,
il reprenait toute cette...
Ah non, je l'affirme, je trouve que c'était un...
Ah bah ça, vous affirmez beaucoup de choses.
Et je vais continuer
à affirmer. Je confirme.
Parce que là, en l'occurrence, avec cette pièce de théâtre, il reprend exactement comme dans son livre toutes les thématiques qui sont les siennes, le temps, l'oubli, les fantômes, etc. Mais cette fois-ci de manière très habile et en l'occurrence de manière très personnelle, puisque là, chacun des personnages porte un nom qui est un nom de la vie réelle de Patrick Modiano, puisque le personnage principal de cette pièce s'appelle Jean, et Patrick Modiano s'appelle Jean-Patrick. L'amoureuse de Jean s'appelle Dominique, comme la femme de Patrick Modiano, etc. Bon, et on peut égrener tous les personnages qui ont...
Ils sont pas nombreux, donc on peut le faire.
Non, on peut le faire.
C'est Elvire.
Il y a Elvire, la mère, qui est comédienne, comme la mère de Patrick Modiano également.
Et pour Caveu ?
Et alors, Caveu,
vous avez
en l'occurrence, je n'ai pas trouvé...
Bon. Mais ça serait Jean Co. Qui était le compagnon
aussi méchant,
aussi méchant.
Il a rajouté un V
et
un E
compliqué, et c'était l'amant de la mère.
Ouais.
Je le pensais pas si mauvais.
Oh, c'est parce que vous êtes beaucoup trop jeune. Sinon, mais vous le sauriez. Et puis, il y a Bob Le Tapia, le régisseur. Voilà, pour les cinq personnages qui apparaissent dans cette pièce.
Donc là, on est content de retrouver ces thématiques-là et content de pouvoir s'y lever en étant en plus dans l'univers, on va dire, réel de Patrick Modiano, pour ceux qui l'aiment. La pièce, concrètement, alors, c'est assez compliqué puisqu'elle est construite de manière... très méta-théâtrale, ou en tout cas très... comment on dit ?
Enchevêtré, je ne sais pas, gigogne, qu'est-ce que vous voulez ?
Oh, gigogne, c'est bien.
Vous prenez le mot que vous voulez.
Là, on débute avec deux jeunes gens qui répètent une pièce de théâtre, puis petit à petit rencontrent la mère d'un des... Alors, ils répètent La Mouette de Tchekhov, ce qui est déjà en
une
soi...
Une actrice débutante et un apprenti soi, écrivain.
Voilà, une pièce qui rentre déjà en résonance avec les personnages, puisque Jean lui-même veut être écrivain et l'actrice, Dominique, ouais, est par essence actrice. Donc il y a déjà ce premier aspect gigogne-là, puis ensuite arrivera la mère, puis le beau-père de Jean, qui vont arriver pendant les répétitions pour discuter avec Jean.
La mère elle-même actrice, le Jean Co, donc étant...
voulant donner des conseils de littérature.
La Mouette encore, donc.
Et jusqu'au moment où ils vont se rendre compte, et là arrive un des autres dadas de Patrick Modiano, que peut-être ces gens-là ne sont que des fantômes en fait, ne sont que des souvenirs dormants, pour reprendre le titre de son roman de la rentrée, et ainsi de suite, jusqu'à terminer avec une très belle balade dans Paris, dont on saura si elle est réelle ou non, et dans laquelle il nous emmène avec un plaisir, en tout cas qui crée un plaisir de lecteur absolument inoubliable.
Donc sensible à la construction de cette pièce, construction, dans un premier point.
Ouais,
très Philippe sensible. Chevillé, pour vous, cette pièce de Patrick Modiano.
Alors il y a un côté fascinant dans la construction, dans ces rapports au temps dilatés où on ne sait plus très bien où on est. Il y a une date, hein, c'est la première de la pièce que joue la jeune fille, qui est en 1966, septembre 1966. Le reste, on est parfois en avant, en arrière, avec des morts, avec des vivants. Ça, c'est assez fascinant. Il y a ce théâtre dans le théâtre dans le théâtre, puisqu'il y a La Mouette, mais il y a aussi une pièce imaginaire de Boulevard, qui est à Gonzalès, une pièce imaginaire de Giraudoux aussi qui est évoquée. On se promène, il a un amour pour les rideaux rouges, pour les vieilles loges, etc. Moi, la question quand même que je me pose, c'est quid d'une représentation théâtrale, parce que le texte quand même, c'est tellement dans la nostalgie, dans le souvenir, que ça fait extrêmement vintage, et que par moment, alors c'est du Modiano, mais ça fait penser un peu à du Giraudoux, du Hanouille, et je me demande, mais quel metteur en scène pourrait mettre ça en scène sans que ça paraisse vraiment du vieux théâtre?
Donc ça sera ma question, un dernier petit tour de table. Qui pour mettre en scène et qui pour jouer? Je vais vous faire plancher un petit peu là-dessus, parce qu'on va quand même un peu mâcher le travail des futurs adaptateurs, metteurs en scène et interprètes. Fabienne Pascoe, premier regard sur nos débuts dans la vie.
Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire la pièce. J'aime pas beaucoup lire du théâtre d'habitude, je préfère le voir. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait une grâce dans la déliquescence même, dans la fluidité, dans ces scènes qui s'emboîtent légèrement, dans l'inachèvement des scènes, dans l'inachèvement des personnages, dans l'incertitude dans laquelle on est plongé sans cesse. Avec des scènes d'une rare cruauté quand même. La mère, qui est une actrice ratée, qui est très jalouse de la jeune amoureuse de son fils, parce qu'elle joue Tchekhov, alors que la mère, Elvire, n'a jamais joué que du Boulevard. Et je crois que...
Ce qui était le cas de la mère de Modiano.
Voilà. Et cette mère qui raconte... Enfin, on voit aussi en demi-mot les souffrances qu'a pu avoir Patrick Modiano avec une mère relativement indifférente qui s'occupait pas beaucoup de lui, ou qui était assez lointaine, qui ne pensait qu'à ses rôles. On sent l'enfant un peu meurtri avec ce personnage de femme frustrée, enfin qui est, encore une fois, avec quasi rien, quoi. Des petits bouts de dialogue, un petit patchwork de choses, et il arrive à restituer l'ambiance d'une époque, l'ambiance du théâtre de boulevard de cette époque. Et ça, je trouve que c'est assez formidable avec presque rien, quoi.
Moi, j'étais surpris aussi peut-être par les didascalies, par donc les indications de l'auteur concernant la mise en scène, les lumières. C'est extrêmement précis. Alors, je ne sais pas s'il sera aussi regardant que certains auteurs qui veulent qu'on respecte absolument leurs indications, mais elles sont vraiment très nombreuses. Je pense que c'est peut-être le romancier qui a quand même du mal à ne pas donner un décor, une lumière, une une couleur presque à ces scènes, et donc elles sont vraiment très nombreuses, elles sont partie prenante du texte, c'est des didascalies. Après, évidemment, ce qui est intéressant, c'est la question de la voix, et c'est bien que ils pensent vraiment au théâtre, parce que il y a ces voix qui viennent de loin, il y a les retours de plateau qu'on a quand on est dans les loges et qu'on entend ce qui se passe sur le plateau pendant la répétition. Ils vont même jusqu'à bricoler, puisque soi-disant la mère joue dans le théâtre voisin, qu'on puisse avoir aussi le son du théâtre d'à côté dans la loge. Enfin bon, des choses tout à fait improbables, mais qui donnent aussi une matière à ce texte de Patrick Modiano. Et puis c'est la question des doubles, hein, parce que on a parlé de ces deux couples. Est-ce que ce ne seraient pas les mêmes personnes à deux âges de la vie, Jean-Christophe Brianchon?
Pourquoi pas, mais honnêtement, je l'ai pas vu comme ça, et je le souhaiterais pas. Je trouve ça beau de voir quelqu'un se retourner sur quelqu'un d'autre que lui pour une fois. Voilà. Justement.
Allez savoir, Fabienne Pascaud.
Oui, c'est une belle idée, mais je trouve qu'il a beaucoup de grâce à évoquer la jeunesse. Et il sait bien, encore une fois, avec rien, évoquer les espérances de jeunes gens, leur timidité, leur folie. Par exemple, ce jeune homme qui est écrivain, qui a tellement peur qu'on touche à son texte, qu'il a une menotte attachée à sa sacoche pour pas qu'on lise son texte sans qu'il s'en rende compte et qu'on le corrige. Et puis les parents revenus de tout. Il s'est bien marqué les différents générationnels.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est une hypothèse comme une autre. Philippe Chevillier.
Oui, d'autant que je pense que ces personnages des parents, ils sont assez difficiles, encore une fois, à mettre en scène, dans la mesure où ils sont, c'est vraiment des caricatures. Ils sont autant la beauté du texte est souvent ce que vous disiez, Fabien, dans les interstices, dans les choses que l'on sent et qu'on imagine, parce qu'il y a très peu de choses qui sont dites. Vous disiez le théâtre de boulevard, on en parle finalement très peu, il y a juste le titre, une réplique, et on y pense. Donc, moi, je trouve que ces personnages sont assez difficiles. Je les imagine mal étant les jeunes devenant vieux, parce qu'ils sont vraiment... Et d'ailleurs, c'est le fil de cette pièce, c'est quand même dans la noirceur et tout ce délire, parce qu'on peut imaginer aussi que les jeunes gens, à la fin, ils ont vieilli, ils sont séparés, tout est assez sombre. Mais encore une fois, moi, je me pose la question, je me dis, oulala, au théâtre, qu'est-ce que ça peut sonner vieux si jamais on n'a pas un metteur en scène qui sache prendre ça en main, parce que on est vraiment dans un théâtre, on n'est pas à Nanterre, on est vraiment dans des théâtres privés.
On peut être à l'atelier là, visiblement, il parle d'une petite place, pas loin. Bon, enfin, c'était les Mathurins en l'occurrence auxquels ça correspond plus véritablement. Mais avant de revenir sur cette question-là, peut-être dire aussi que c'est quand même là encore une ode au théâtre. Il y a cette réplique de Dominique, la jeune actrice, qui dit. J'allais à la mer ou à la montagne en espérant que je pourrais enfin respirer, jusqu'au jour où je me suis trouvé pour la première fois sur une scène de théâtre. Malgré le trac, je respirais comme je ne l'avais jamais fait. Jamais plus je n'ai éprouvé cette sensation d'étouffement. Pourquoi aller chercher le grand air à la montagne ou au bord de la mer? Le grand air, il est ici, dit-elle sur la scène de théâtre. Donc c'est quand même une magnifique déclaration d'amour à ce que c'est que c'est qu'un plateau de théâtre. Mais alors, vous avez pensé, forcément, Fabienne Pascaud, un
c'est
metteur
pas la
en scène d'interprète.
Il y a théâtre, hein, je crois. Non, mais il y avait une. Modiano. Il y avait moi, un... je n'ai jamais vu. Il a écrit La Polka et. Poupée blonde. Oui, oui.
Elles ont été publiées. Oui, je crois qu'il avait essayé publiées. Quand il avait 19 et 18 ans et qu'il avait tout à fait abandonné.
Ah non, c'est dans les années 70 et dans les années 80, mais je ne les ai pas lues.
Écoutez, alors je vais me plonger. Vous avez pensé à un metteur en scène des interprètes?
Un metteur en scène, bizarrement, moi j'ai pensé à Stanislas Nordet. Qui joue assez bien avec...
Mais j'aimerais bien pouvoir y aller, moi, donc si vous pouvez changer de metteur en scène.
Non, mais j'ai pensé à lui. Je ne sais pas trop pourquoi, mais son nom s'est imposé. Il convoque bien les fantômes nordais aussi. Et son dernier spectacle, que je crois que j'avais été une des rares à aimer, parlait lequel, aussi des... le spectacle écrit
sur
par...
Sur Fassbinder
non, celui d'après.
Ah bon, parce que...
Oui, Funchtime.
Ah oui,
Eric von Schreim. On était deux, j'avais aimé aussi.
Le Fassbinder,
c'est les deux qui
avaient aimé. Bah,
Fassbinder, c'était bien.
Oui, et ben le spectacle sur von Schreim, je trouve qu'on voyait bien ces différences, ces plans différents.
Nordet, mise en
voilà,
scène.
Voilà, et puis la mise en scène. Et puis sinon, j'aurais bien vu Adèle Haenel dans le rôle.
Vous voulez vraiment pas que j'y aille. Ah, c'est mieux déjà.
Anaïs Dumoustier et puis Ninet dans le rôle du jeune homme.
Un peu facile, non?
Ah, peut-être un peu facile.
Fabienne.
Et Lucchini dans Janko. Et Anne Alvéro dans la mer.
Bon, c'est pas mal. Pas toutes les consonnes, mais Jean-Christophe
Briançon.
Pas toute
la distribution, moi, mais. Mais je voudrais bien qu'il y ait Mélodie Richard, quelque part, dans le rôle de, ouais, de Dominique. Hein.
C'est ça.
Bon. Bon. Non, non, mais sur scène. Et ensuite, peut-être à la mise en scène, il a l'air de tellement tenir à la façon dont ça va être fait que finalement, pourquoi pas lui, en fait. Oh bah, je trouve que ce serait peut-être.
Imaginez diriger les acteurs.
Ah, je suis sûr qu'il le ferait à merveille.
Il faudrait qu'il se fasse violence, mais pourquoi pas.
Et puis quelque part, la voix d'Edouard Baird, je trouve que je l'avais beaucoup aimé dans Un Pédigré.
Ah bah oui, c'était absolument admirable. Mais il pourrait faire qu'aveu. Hein.
Ce serait bien.
Il serait remarquable de cruauté, sans doute. Philippe Chevillier, puisque vous avez posé deux fois la question, vous avez la réponse.
Alors moi, justement, pendant longtemps, je ne l'ai pas eu. Je regrette de ne pas avoir eu celle de Stanislas Sordet, qui est une très bonne idée.
Mais
moi,
j'ai
imaginé une chose vraiment un peu iconoclaste, c'est Michel Faux. Le Michel Faux qui montait Monterland, pourquoi pas.
Ah, pas mal. Et Léa Drucker, du coup, pourrait faire la mer. Alors,
absolument.
En se vieillissant un petit peu.
Voilà.
Bon,
Et Michel Faux pourrait faire... À la
Caveu. Ah oui. Bon, ben voilà plein d'idées. J'ai pas le temps de mettre au pot moi-même la mienne, mais rappelez que Nos débuts dans la vie de Patrick Modiano est publié chez Gallimard. Et nous concluons cette émission en 2018 comme en 2017 par le jeu de la dispute avec Grégoire Desfiore qui nous rappelle la question qui date de l'an dernier, vendredi. C'était.
Quel est le nom de la sculpture en bronze de l'artiste colombien dérobée début novembre dans une galerie parisienne? Et la réponse était Maternity.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour l'exposition Le Vert, un Moyen-Âge inventif jusqu'au 8 janvier au musée de Cluny à Paris. La question?
Quel est le nom de l'île italienne célèbre pour ses ateliers de verrerie?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Et toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Demain, 19h, dispute consacrée à la musique avec Mathilde Serrel, Pascaline Podevin et Hugo Cassavetti sur nos platines Revival d'Eminem, le double CD-DVD de Marquis de Sade live à Rennes et Tribute 2 de Jim James.